Bon, voilà. Donc le sujet, cette porte elle claque, je ne sais pas pourquoi, il faudrait peut-être bien la fermer. Le sujet de cet après-midi, c'est, vous l'avez vu, c'est les étincelles. Alors peut-être vous vous demandez ce que ça peut bien être, les étincelles. Et en fait, j'ai écrit cette étude il y a un an environ, je vous expliquerai pourquoi. Et vous savez que nous avons un ami en Israël qui s'appelle Raïm, qui nous donne des enseignements très régulièrement. Et un jour, Raïm est venu à Paris et il était venu pour inaugurer une exposition. Donc, nous, on a pris le train et puis on est allé le voir. Et le lendemain, on était libre. Et lui aussi. Bon, il se trouve qu'on s'est retrouvé dans Paris, au même moment, au même endroit. Et il a dit, ça, c'est un truc tout à fait particulier. Parce que se trouver deux fois comme ça en suivant, dont une fois tout à fait au hasard dans Paris, c'est quand même grand. On était allés tous les deux au même moment, et je ne l'étais pas dit, à une exposition sur Mosché. Et il a dit, mais ça, c'est une preuve que tu es une étincelle. Alors je dis, bon. Alors, vous vous demandez peut-être ce que c'est qu'une étincelle. Mais écoutez, ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot. C'est un mot qui est utilisé par les Juifs. Et ça représente des personnes qui aiment Israël d'un amour tout à fait inexplicable, profond. Ils ne savent pas pourquoi. C'est dehors, ça? Un téléphone. Aujourd'hui, il y en a un qui veut pas. On a failli pas venir. Hein. La voiture ne démarrait pas. Bon. Alors, je reprends. Donc, les étincelles, ce sont des gens qui, tout d'un coup, se mettent à aimer Israël. Ils savent pas pourquoi. Mais c'est un amour qui est tout à fait inexplicable, profond, et souvent les Juifs disent, mais ce sont certainement des gens, et ils ne peuvent pas le prouver, hein, qui ont une âme juive. Et des gens qui ne peuvent pas le prouver, ils n'ont pas les moyens, parce que ça remonte très loin, si vous voulez. Et ils les appellent des étincelles. Alors, quand l'Éternel réveille une étincelle, comme ça, c'est l'Éternel qui fait, hein, celle-ci, cette étincelle, a bien souvent un désir puissant de retourner à ses racines. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne l'empêcherez pas. C'est comme ça. Et toutes les étincelles ne peuvent pas apporter la preuve de leur origine, soit éphraïmite, c'est-à-dire du royaume du nord, soit judaïque, du royaume du sud. Impossible de prouver, c'est trop loin. C'est trop loin. Et donc, cette étude ici, elle est assez particulière, parce que la Bible parle très peu de ce phénomène-là. Très peu. Et je vous raconterai à la fin l'histoire d'un de nos amis, sans trop donner de détails, mais je vous raconterai pourquoi j'ai écrit cette étude. Alors, on va d'abord parler de la descendance d'Abraham. On a ça dans Romains 4, versets 8 à 16. Je ne vais pas tout lire parce que c'est long, mais au verset 9, il dit... Le bonheur. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, comment donc lui fut-elle imputée ? Question. Était-ce après ou avant sa circoncision ? Il n'était pas encore circoncis. La foi lui a été imputée à justice avant qu'il soit circoncis. C'est important. Et il a reçu le signe de la circoncision après, comme un sceau de la justice de Dieu. Et en même temps, je voudrais vous rappeler que la circoncision, c'est l'acte notarié de la possession de la terre. Le drame, je ne vais pas revenir dessus, mais le drame, c'est que Abraham, il a circoncis Ishmaël également. Vous voyez ? Bon, ça c'est un autre problème, on l'évacue. Mais Dieu a dit à Abraham, « Je t'établis père d'un grand nombre de nations. » Donc pas seulement de la nation qui va descendre de Jacob, mais d'un grand nombre de nations et par le moyen de la foi. Vous savez, on le sait ça, on le sait, mais il faut le redire. Parmi la descendance physique du patriarche, un seul a été le fruit de la foi. Parce que Sarah était stérile et ça a été Yitzhak. Il a eu sept autres fils. Au total, il en a eu huit. Hein. Donc sept autres étaient de la chair, dont Ismaël l'aîné, et qui n'a pas eu le droit d'aînesse, je vous le rappelle, et qui est devenu, au fil du temps, un ennemi d'Israël. À son tour, Isaac a eu deux fils jumeaux, fruit de la prière, donc de la foi, parce que Rebecca était stérile. Ésaü et Jacob. Ésaü ne s'intéressait pas au droit d'aînesse. Il l'a méprisé. Il est qualifié de profanateur dans Hébreux 12:16. Profanateur. Et il est devenu un ennemi de Jacob. Ça en fait deux. Et les ennemis du peuple d'Israël se sont multipliés au cours de l'histoire. Il y a donc eu deux personnages privés du droit d'aînesse, Ishmaël et Ésaü. Et puis, d'Ésaü est venu un petit-fils absolument abominable. C'est Amalek. Dans Exode 17:16, qu'est-ce qu'a fait Amalek ? Eh bien, il s'est attaqué au trône de l'Éternel, directement. Donc il s'est attaqué à Dieu et il est écrit et il dit « Puisque sa main s'attaque au trône de l'Éternel, guerre à Amalek de par l'Éternel de siècle en siècle. » Voilà donc encore un ennemi et un ennemi sérieux contre Israël, la descendance par la foi. On n'oublie pas non plus, je passe en revue les ennemis là pour le moment, on n'oublie pas non plus la descendance de Lot, neveu d'Abraham, c'est-à-dire les Ammonites et les Moabites, qui ont été ennemis, des ennemis farouches d'Israël. Ils ont même été maudits après par Dieu. Enfin, tous les peuples qui occupaient la terre de Canaan quand Israël est arrivé, eh bien, notamment les Philistins, et puis plus tard, il y a Babylone, la Grèce, Rome, tout ça sont des ennemis d'Israël. Et la liste est longue, et on doit chercher à comprendre la raison profonde. Pourquoi Israël a toujours eu tant d'ennemis ? Et cette raison, elle est spirituelle. Il ne faut pas chercher de raison matérielle. Elle est spirituelle. Et vous voyez ici, quand vous prenez le nom de Yaakov, Yaakov, ça vient de Ekev en hébreu, qui veut dire talon. Mais le nom d'Ésaü vient de la racine Esav, Esav qui signifie fer. Et on va voir après qu'il y en a un qui est dans l'être et l'autre qui est dans le fer. Pas pareil. Ésaü, la tradition juive et quelques textes quand même le disent, Ésaü est l'ancêtre des bâtisseurs de Rome. Et il va tenter tout au long de l'histoire de rejeter son frère Jacob, voire de le détruire. C'est une question de domination. Mais Jacob aura toujours la capacité de repousser les attaques d'Ésaü. Reprenez l'histoire et voyez un peu quand le peuple d'Israël a parcouru l'Europe, c'est-à-dire qu'il a parcouru le territoire d'Ésaü, voyez tous les ennuis qu'il a eus. Ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Alors, les rapports entre Ésaü et Jacob ont toujours été conflictuels. Et la prophétie nous dit que le cadet, c'est-à-dire Jacob, dominera sur l'aîné, Ésaü. Ça ne s'est jamais produit, ça va se produire bientôt. Parce que la capitale du monde sera Jérusalem et non plus New York ou ce que vous voulez. Ou Rome, ou enfin peu importe. Ésaü a de nombreux points communs avec Ismaël. Ils sont tous deux aimés de leur père qui les trouve virils. Regardez la religion d'Ismaël, c'est une religion masculine. C'est viril. C'est la domination de l'homme sur la femme, alors quelque chose de carabiné. Ésaü était un chasseur. C'est viril. Vous voyez ? Tous les deux sont virils, donc leurs pères respectifs les aiment. Et ce sont des gens sanguins, guerriers, chasseurs. Mais Rebecca n'aimait pas Ésaü. Elle n'aimait pas ce fils. Ismaël, lui, c'était un homme du désert. Un voyageur comme son père, Abraham, un guerrier mystique. Ismaël ne haïssait pas forcément son demi-frère Yitzhak, mais il le jalouse. Et Ismaël a eu l'amour de sa mère. Il a été aimé de sa mère. Alors, Ismaël, lui, il est religieux. Ésaü, non. Ésaü, non. Il ne s'est pas intéressé à la foi. Les choses de la religion lui sont étrangères. Et, alors ça, évidemment, c'est rigolo, mais je vous le dis quand même, mais les commentateurs juifs disent qu'il a refusé la circoncision. Je ne vois pas comment il aurait pu faire étant bébé, mais bon... Mais ça montre un peu l'esprit. Ésaü a perdu son droit d'aînesse par besoin de remplir son ventre. Ça veut dire que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire perdre son droit d'aînesse? Ça ne veut pas dire qu'il veut perdre sa part matérielle, mais il perd sa part spirituelle. C'est ça qui est important. Donc, il perd le sacerdoce que normalement il aurait dû porter. Mais par contre, il réclame sa part matérielle. Et c'est pour ça qu'il veut dominer par le matériel son frère Jacob. Comprenez le mécanisme. Alors, les 613 commandements, il n'en veut pas. Hein. Il n'en veut pas. C'est religieux, ça ne l'intéresse pas. Et il pense que son destin est dans une ascension matérielle. Ben regardez l'Europe. Il n'y a pas plus matérialiste que l'Europe. L'Occident. Tout est sur l'argent, tout est sur arriver au-dessus des autres, se monter les uns sur les autres. C'est comme des crabes qui se montent les uns sur les autres. C'est un esprit lamentable. Lamentable. Mais c'est la partie du droit d'aînesse, mais qui n'est que matérielle, parce que le spirituel a disparu. Et Ésaü méprise complètement, non seulement la parole de Dieu, mais il méprise ses parents. Il méprise ses parents parce que, à l'âge de 40 ans, il s'en va épouser, à la grande déception de ses parents, des femmes cananéennes. Et je vous rappelle que Canaan avait été maudit. Donc, il s'en va épouser des femmes maudites. Vous imaginez, vous? Et puis, il épouse également la fille unique d'Ismaël. Il connaissait la malédiction qui était sur Canaan. Pourquoi il s'est marié avec? Mais ça veut dire une chose. Alors, on n'en parle pas souvent, ça, mais je vais quand même vous le dire. Parce que c'est dans la Bible est quelquefois très douce pour dire des choses terribles. Hein? Dans Genèse 9, au verset 24 à 27, on lit « Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. » Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Et il dit « Maudit soit Canaan ». Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. On ne maudit pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? On pense qu'il a sodomisé son père. Mais c'est écrit tellement, vous voyez? Mais la tradition juive le dit. Il a sodomisé son père, il a été maudit. Et comme le père ne voulait pas maudire son propre fils qui avait été béni, il a maudit son petit-fils. C'est redescendu d'un cran. Tac. Donc c'est Canaan qui est maudit. Et voilà qu'Ésaü épouse une fille de Canaan. Vous vous rendez compte? La racine là qui tombe sur lui. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'à partir de ce moment, les intérêts... Alors attendez, je parle en esprit. D'accord? Les esprits qui sont dans Canaan. Les intérêts de Canaan et d'Ishmaël, puisqu'il a épousé les deux, sont aussi les intérêts d'Ésaü. Parce qu'il y a mariage. Et il n'est pas difficile de comprendre que, et il faut comprendre en esprit, parce que les esprits qui étaient à l'époque et ceux qui sont maintenant, c'est les mêmes. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi l'Occident et particulièrement l'Europe, a bien souvent, et même tout le temps maintenant, des positions communes avec le monde arabe et le monde cananéen, dont les esprits sont sur les Palestiniens actuels. Vous comprenez? Alors, la fascination de Ésaü l'occidental pour Ishmaël, son oncle, s'explique aussi par la haine qu'ils ont de Jacob. Parce que, mais c'est de leur faute. Enfin, pas pour Ishmaël, mais pour Ésaü, c'est sa faute. Le droit d'aînesse, c'est Jacob qui l'a eu. Il a eu l'amour de sa mère. Tandis que... Rebecca n'aimait pas Ésaü. Et puis surtout, il a eu la bénédiction de son père, Jacob. Et quand Ésaü s'est présenté, c'était trop tard. Terminé. Il n'y avait qu'une bénédiction, elle avait été donnée. Donc, Vous voyez pourquoi il y a un conflit actuellement. C'est qu'il veut voler, reprendre ce qui lui a été pris il y a bien longtemps. Il ne faut pas penser que les histoires sont des histoires humaines comme ça. Ce sont des histoires spirituelles. Et l'opposition entre Ismaël et Jacob, c'est pas tout à fait de la même nature. Ismaël a reçu une très grande part de la terre entre le Nil et l'Euphrate, parce qu'il a été circoncis à 13 ans, à la demande de son père Abraham. Il a été béni, il y a un territoire immense, il s'est multiplié, ils sont pas, je ne sais pas combien de millions. Et ce qui le gêne, Ismaël, c'est ce petit bout de terrain là qui est au milieu. Voilà, c'est tout petit, hein. Mais il voudrait bien l'avoir, comme ça, il y aurait tout. Ça, il va falloir qu'il s'explique avec le Seigneur. Alors, Ésaü s'est installé dans la montagne de Séir, quelque part dans le Négev, pour ceux qui sont allés en Israël. La montagne de Séir, c'est magnifique. Le soir, c'est rouge. Le soleil est là, c'est rouge, c'est magnifique. Et c'est pas étonnant qu'on ait appelé ce territoire Édom. Édom qui veut dire à la fois la terre, mais aussi, parce que Adam, c'est la même racine, mais c'est aussi rouge. Hein? Alors, Genèse 36, versets 1 à 8. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon, le Héthien, Olibama, fille d'Anna, fille de Tsibéon, le Hévien, et Basmat, fille d'Ishmaël, sœur de Nébachot. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz. Alors, cet Éliphaz, bon, Ada, c'est donc une fille cananéenne, une femme cananéenne. Elle enfante à Ésaü Éliphaz. Et on voit un peu plus loin qu'Éliphaz a 6 garçons. Regardez un peu comment c'est fait. Genèse 36, versets 11 et 12. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsepho, Gaétam et Kenaz. Ça en fait 5. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, elle enfanta à Éliphaz Amalek. Voilà le 6e. Donc, fils d'une concubine. Alors, pour vous situer un petit peu, parce que tout ça, ça fait partie de l'histoire actuelle. Eh bien, Théma s'est installé dans la région de Pétra. Omar a sans doute fondé la principauté d'Omar. Et la tradition juive rapporte que Tsepho était un chef militaire et selon la plupart des commentateurs juifs, fondateur de Rome. Donc vous voyez. Autrement dit, il y a deux idées fortes qui émergent. C'est que Ésaü a des liens avec la terre de Canaan, dans la région de Jérusalem. Ésaü. De nombreuses indications renvoient également sur Rome. Parce que parmi les descendants d'Édom, on trouve le chef Magdiel et le chef Hiram. Hiram, c'est presque Rome. Ir la ville. Hiram. Et les commentateurs juifs associe Magdiel à, qui signifie tour de Dieu. Tour de Dieu, vous entendez bien? Qu'est-ce qu'on a fait à Rome? On a fait la tour. Pas n'importe laquelle. C'est la tour catholique là-bas. Et la tour de Dieu est associée par la tradition juive à Rome. Et Hiram signifie de la ville qui correspond également à Rome. C'est dans Genèse 36 au verset 43. Le chef Magdiel, le chef Hiram, ce sont là les chefs d'Édom, selon leurs habitations dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom. Alors, on voit se dessiner, et on le voit dans l'histoire actuelle, un axe qui part de Jérusalem jusqu'à Rome. Ou si vous préférez, l'Orient et l'Occident. Et le mariage que l'on voit maintenant, du point de vue politique, eh bien, ça n'est pas Ishmaël qui a courtisé l'Occident. C'est l'Occident qui a courtisé Ishmaël parce que l'Occident a besoin de pétrole. Un mariage, évidemment, d'intérêt. Et les relations entre ces pays arabes et l'Europe se développent et se développeront de plus en plus. Bien sûr. Vous savez bien ici que, par exemple, pour le Ramadan, on va faire venir 300 imams d'Algérie, en France. Mais oui. Alors, c'est quoi ça? Est-ce que on a 300 prédicateurs français qui vont en Algérie? Non? Ah non. Les échanges vont dans un sens, mais pas dans l'autre. Ouais. Donc, ben, il faut le savoir. C'est que l'Europe soutiendra de plus en plus les Palestiniens, descendants des Cananéens. Les esprits sont les mêmes. Et le monde arabe contre Israël. Et les liens qui unissent les Cananéens et les Ismaélites à Rome sont des liens très forts et très anciens. Ce n'est pas de la politique de maintenant. C'est très ancien. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, bien sûr, le sujet, ce sont les étincelles. Mais moi, je veux placer le contexte. Le contexte, c'est que de plus en plus, dans nos pays, vous allez avoir ce qu'on appelle de l'antisémitisme, et ça sera de plus en plus fort. L'origine diabolique de la haine contre Israël, de où ça vient? Eh bien, ça vient du fait que ce peuple a reçu une mission. Et cette mission, c'est d'apporter la lumière aux nations. C'est d'être une nation sainte, c'est-à-dire à part, un royaume de sacrificateurs. Ça, c'est sa mission. Et Dieu avait dit, dans Exode 19:6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Malheureusement, ils ont fait le veau d'or, vous connaissez l'histoire, etc. Et les sacrificateurs n'ont été que les Lévites. Et il va falloir attendre Yeshua, la venue de Yeshua, il y a 2000 ans, pour qu'il nous redise « Je veux faire un peuple de sacrificateurs. » Il rétablit tout. Vous voyez, c'est ça aussi, aller au bout de la loi, c'est rétablir les choses. Alors, je vais reprendre encore une fois, mais vous savez, le travail d'un enseignant, c'est aussi de répéter. Hein. Ce verset que j'aime beaucoup, mais je l'avais pris dans le psaume 105, il y a 2 jours, je crois. Maintenant, je le prends dans 1 Chronique 16, versets 16 et 17. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Les 4 étapes. Et puis je vous avais dit hier, il y en a une 5e, c'est quand il devient Yeshoun. Vous vous rappelez? Ce 3e patriarche, Jacob, on voit qu'il doit passer de Jacob à Israël. Et si vous remarquez que le changement de nom d'Abraham à Abraham s'est fait en une fois et pour toujours. Et quand le nom a été changé, d'ailleurs le nom de son épouse aussi, alors c'est tout. Derrière, c'est toujours Abraham. Vous voyez ? Tandis que quand on parle de Jacob, Eh bien, Dieu lui dit, tu t'appelleras Israël, mais regardez bien la Bible, de temps en temps c'est Jacob, de temps en temps c'est Israël. Donc, il y a quelque chose qui est en route là, et il faut que ça bascule. Par exemple, alors je reprends Genèse 32, 28. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras, futur, appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Donc c'est un lutteur, Israël. Il n'empêche qu'après ça, regardez, je prends dans Genèse 46, 2. Un verset comme ça. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Vous voyez, dans le même verset. Donc il faut comprendre qu'il y a un mécanisme là derrière qui doit se mettre en place. Et le passage de Jacob à Israël, on en a déjà parlé pendant ces deux jours, c'est à la fin des temps. Hein? Alors, ce combat-là qui a lieu entre l'ange et Jacob, c'est un combat prophétique qui va en réalité se produire à la fin des temps. C'est prophétique. Croyez bien que pour passer de Jacob à Israël, le peuple dit Jacob, va se battre contre eux, parce qu'il doit sortir de lui-même et monter d'un échelon pour arriver à connaître son Mashiach. C'est une vraie bagarre. C'est une vraie bagarre. Ce sont des combattants. Et c'est intéressant à comprendre ça. Ça va être la dernière étape, ça. Mais toute la haine qui est tournée contre la descendance de Jacob, toute cette haine qu'on voit dans le monde, elle a quoi comme objectif? Eh bien, c'est tout simplement d'empêcher Jacob de devenir Israël. C'est ça l'objectif. C'est ça que je voudrais vous expliquer cet après-midi. Et pourquoi? Parce que quand il sera devenu Israël, dans l'esprit, il pourra rentrer dans sa destinée. Vous comprenez? Donc il faut l'empêcher de ça. Et si on pouvait le maintenir sous forme Jacob, alors tout irait bien. Mais si jamais il bascule à la forme Israël, alors là il n'y a plus rien qui va. Pourquoi? Ben, parce que Satan c'est fini pour lui. Satan c'est fini pour lui. Donc, Satan sait et il fait tout ce qu'il peut pour empêcher, d'une part, la venue du Mashiach, parce que s'il arrive à l'empêcher, eh ben, je suis désolé, mais Jacob ne passera jamais à Israël, et Jacob ne pourra même pas devenir Yeshurun. Et si le Mashiach ne vient pas, ben, le royaume du Mashiach ne vient pas non plus. Et à ce moment-là, c'est toujours Satan qui reste dans la domination de la terre. Vous comprenez? Or, nous savons que Mashiach doit venir au milieu de son peuple. Donc, si on pouvait chasser ce peuple jusqu'à la mer et puis les mettre dehors, même peut-être leur donner une autre terre, allez, on va trouver un truc, je ne sais pas moi où, en Afrique, on va trouver un endroit, on va les parquer là, et bien c'est fini, parce que c'est à Yerushalayim que ça doit se produire. Vous comprenez? Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Alors, les descendants des ennemis bibliques d'Israël, enfin de Jacob, ils ont toujours le même esprit. C'est une guerre d'esprit. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les esprits sont toujours les mêmes. Simplement, c'est la chair humaine qui a changé. Mais les esprits sont toujours les mêmes. Et l'objectif est toujours le même. ce sont des esprits de haine qui se transmettent de génération en génération. Et c'est un combat mortel contre le plan de Dieu. Regardez, regardez la bande de Gaza, la bande de Gaza. C'était là qu'il y avait Goliath. Ben, il y a toujours des Goliaths. Ça n'a pas changé. Ils sont toujours là. Eh ouais. C'est toujours le même esprit. Regardez la guerre de Gog qui se prépare. Je vous avais déjà dit, hein, Gog en hébreu, c'est Goïm ve Goïm. Si vous prenez les trois lettres, Gog, c'est un guimel, un vav, un guimel. Donc avec ces trois lettres, on fait Goïm ve Goïm, c'est-à-dire nations et nations. C'est les Nations Unies. C'est toutes les nations du monde qui se mettent contre. Voilà. Eh bien, Gog, regardez, mais regardez. Qu'est-ce qu'on a actuellement, les nations qui se préparent militairement contre le petit peuple. Relisez Ézéchiel 38. Il y a la maison de Togarma, c'est la Turquie. Il y a le Gog au pays de Magog, à l'extrémité du septentrion. Ben, prenez une règle, hein, vous partez de Jérusalem et vous partez au septentrion, vous passez par Moscou. Direct. La Perse, c'est qui? C'est l'Iran. Ben regardez les trois là. Alors c'est rigolo, hein, parce que vous avez Poutine au milieu, et vous avez deux musulmans qui peuvent pas se sentir. Ils peuvent pas se sentir. Et heureusement, parce que ça c'est la technique de Dieu, c'est qu'à un moment donné ils se font la guerre. Ils vont se détruire tout seuls. Ben oui, ils sont assez grands pour le faire. Alors, la haine qui est déchaînée, on le voit de plus en plus actuellement, la haine contre les Juifs, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Ce sont des esprits qui sont aux commandes. Et le Seigneur, d'ailleurs, nous a dit, nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits. Et si nous, on est quelquefois troublé par ce qui se passe, eh bien, il faut comprendre que nous sommes en guerre, une guerre spirituelle, et les esprits le savent. Et il n'y a aucun doute, alors maintenant je voudrais vous expliquer ça, c'est qu'il n'y a aucun doute que les esprits méchants contre Jacob, ces esprits savent reconnaître les âmes juives. Mais bien sûr, ils savent reconnaître les âmes juives. Jacob est associé à la loi de Dieu. Parmi les descendants de Jacob, il y a des religieux qui sont des spécialistes de la loi. Ils pourront vous expliquer la loi en long en large. Le Talmud est rempli d'explications comment il faut appliquer la loi dans telle et telle circonstance. Ça, c'est le travail de Jacob. C'est le travail de Jacob. Je voudrais vous signaler que si nous avons la Bible intacte, comme on l'a maintenant, c'est grâce à Jacob. Et si nous savons lire la Bible, parce que je vous signale que la Bible du départ, la Torah du départ, ce sont des lettres les unes derrière les autres, sans espace et sans voyelles. Écrivez maman sans les voyelles. Essayez de lire un petit peu. Alors, prenez donc ce long serpentin, où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de voyelle. Essayez de trouver comment on découpe pour faire des mots, comment on découpe pour faire des phrases, à quel endroit on s'arrête, à quel endroit on repart, et surtout, comment on prononce. Ah, Alors, ce sont les descendants de Jacob qui ont inventé, entre l'an 500 et l'an 1000, après Yeshua, après les Massorètes, qui ont inventé les voyelles. Ils ont mis des petits signes pour dire, ben là, on s'arrête, là, on reprend, là, on lit deux mots en suivant, là, on hausse le ton, là, on baisse, et ça fait comme une musique, vous savez. Et heureusement qu'on a ça. Heureusement, mais comment on ferait, nous? Eh ben moi, je l'ai béni rien que pour ça, vous voyez. Rien que pour ça. Parce que si on n'avait pas eu ça, mais comment on ferait? Alors, on critique beaucoup les Juifs parce qu'ils sont, comme on dit, sous la loi. Alors, ils font ci, ils font ça, etc. Les 613 commandements. Bon, ben moi, je ne les critique pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est leur façon à eux, pour le moment, de s'approcher de Dieu. Et ce faisant, écoutez bien, ce faisant, au moins pour ceux qui n'ont pas perdu la foi, je parle de ceux qui sont religieux, ce faisant, ils ont gardé la crainte de Dieu. Eh bien, regardez l'Église. Elle joue au malin, l'Église. Elle se croit maligne, mais elle a perdu la crainte de Dieu depuis longtemps. Elle a perdu la crainte de Dieu depuis longtemps. Et les chrétiens, dans beaucoup d'endroits, font n'importe quoi. Ont une vie de péché, de n'importe quoi, et puis ils sont satisfaits. Oh ben Dieu dit rien. Dieu dit rien, tout va bien. Ben, je suis désolé, mais eux, au moins, ils ont gardé la crainte de Dieu. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des pécheurs au milieu d'eux, c'est pas vrai. Vous le savez bien. Hein? Il y en a aussi qui ont perdu la foi depuis longtemps. Il y en a qui sont devenus même des ennemis de leur propre peuple. Il n'y a pas pire antisémite que les Juifs eux-mêmes. Il faut le dire. Mais quel était le travail de Jacob? Ézéchiel 44, 23 nous dit « Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. » Ben, j'aimerais bien, moi, qu'il y ait des pasteurs qui le fassent. J'aimerais bien, parce que ça devrait être leur boulot. Et au lieu de ça, ben, ils flattent. C'est une honte. Moi, j'ai bien aimé ce que Martha a dit au début en disant que Yeshua avait honte de ses ministres. Mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est scandaleux. Mais bon, c'est comme ça. C'est la fin des temps. Et regardez Bilam. Bilam, on en a parlé il y a deux jours. Il dit, oui, nombre 23, 9. Alors là, c'est la version Zadok. Zadokan. Hein. Oui, je vois, donc il voit le peuple en bas, hein, dans la vallée, je le vois de la cime des rochers, du haut des collines, je le découvre. Ce peuple, il vit solitaire. Il vit solitaire, il ne se confondra pas avec les nations. Écoutez, ça c'est important. Parce que l'âme juive est bien à part des autres. Et elle ne se mélange pas aux autres. L'âme juive ne se mélange pas aux autres. C'est pourquoi on observe chez certaines âmes juives qui ont été, alors regardez bien, des âmes juives qui ont été détachées du peuple par l'histoire, détachées, parce que l'histoire a été tumultueuse, comprenez? C'est comme si on avait un feu qui représente le peuple d'Israël, le peuple juif, on prend un bâton, on tape dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des morceaux qui s'en vont et qui, on a l'impression qu'ils sont perdus. Ben, ça s'appelle des étincelles. Ça s'appelle des étincelles. Elles ont été détachées du peuple juif par suite de l'histoire, et par moment, Dieu les réveille, les rallume. Parce que Dieu connaît ces âmes. Et c'est à ce moment où elles se réveillent qu'elles ont un désir profond de retourner à leurs racines, à leur peuple, et elles ont un désir profond, elles aiment ce peuple parce que c'est leur peuple. Vous comprenez ça? C'est une réalité très actuelle. Et le terme étincelle, c'est vraiment une réalité intéressante parce qu'elle se détache du foyer subitement, comme ça, paf, quelquefois ça fait un bruit, toc, vous voyez, et puis ça fait une étincelle qui a des crépitements, et puis elle monte, elle éclaire, et puis elle retombe, et elle retombe dans son peuple. Mais elle a éclairé pendant un moment. Et quand elle retombe, elle met le feu ailleurs. Et vous ne pouvez pas l'empêcher, c'est comme ça. Et l'étincelle ne sera plus jamais rien d'autre qu'une étincelle. Jusqu'à ce qu'elle rejoigne le foyer d'où elle est sortie. C'est comme ça. C'est pourquoi lorsqu'une personne découvre son origine juive, moi j'ai demandé au Seigneur, le plus souvent, sa vie va changer totalement. Elle va changer complètement. Bien entendu, il y en a qui vont vouloir étouffer ça. On veut quelquefois étouffer parce qu'on n'a pas envie. C'est possible. Quelquefois, on veut combattre ça. Mais je vais vous dire, est-ce que vous pouvez changer votre couleur de peau? Ben moi, je vous dis non. Ou éventuellement, on va vous tremper dans le Javel, je ne sais pas quoi, mais vous allez voir ce que ça fait. C'est pas possible. Alors, je voudrais vous lire ici un extrait qui est d'un livre qui a été écrit par une dame qui s'appelle, c'est une juive, qui s'appelle Sarah Yoeved Rigler. Et voilà ce qu'elle dit. L'âme juive est véritablement une parcelle de l'âme juive collective du peuple juif. Elle est éternelle et immuable. Une fois qu'une âme juive est entrée dans le corps d'une personne, que ce soit par héritage de sa mère ou par le fait d'une conversion dans le respect de la loi juive, cette personne ne peut en aucun cas renoncer à cette âme juive. C'est elle qui dit ça. Un peu comme on ne pourrait renoncer à son ADN. Les âmes ne sont pas le produit générique. L'âme juive, comme l'âme de chaque nation, a des qualités qui lui sont spécifiques, dont les plus caractéristiques sont la compassion, l'altruisme et la honte. On touche ici à la culpabilité juive. Le Talmud va jusqu'à avancer que si vous rencontrez un juif dépourvu de toute compassion, vous pouvez en toute légitimité mettre en doute le fait qu'il est une âme juive. Vous voyez ? Et elle ajoute ceci. Qu'est-ce qui est imprégné dans toutes les fibres de son être, au point qu'un antisémite peut flairer un juif, quand bien même il ressemble à un non-juif, porte les mêmes vêtements, agit de la même manière que lui, sans se démarquer. Quelle est cette essence constitutive que pas même la conversion ne peut oblitérer, dénier, éradiquer? La réponse du judaïsme, c'est l'âme juive. Alors, la Torah nous dit ceci. L'âme de la chair est dans le sang. Donc, l'âme juive est portée par le sang juif. Et bien entendu, pour être connu, pour être juif, déclaré juif, il faut prouver par la mère et préparer un dossier compliqué. Il y en a qui ils ont des dossiers carabinés à faire, hein, vous savez, sont très méfiants. Mais celui ou celle qui a du sang juif en lui, une partie du sang juif en lui, eh bien, à un moment donné, il est tout à fait possible que Dieu le réveille, le rallume par son Saint-Esprit et qu'il devienne une étincelle. Et une personne des nations, n'importe qui, un chrétien ou même une personne des nations, peut aimer Israël, bien sûr. D'ailleurs, c'est tout à fait normal, Michel le dit, quelqu'un qui se convertit va finir par aimer Israël, sinon c'est pas normal. C'est la racine, vous comprenez. Mais il y a une différence entre cet amour de tout à chacun que l'on doit avoir pour Israël et cet amour qu'une étincelle a. Parce que l'étincelle, c'est une partie de sa chair. Vous comprenez? C'est autre chose. Et ça, c'est quelque chose que de toute façon, vous n'arriverez pas à éteindre. Ou alors, vous allez vous brûler dessus. Parce que c'est une étincelle. Alors, quel est le chemin des étincelles? Vous savez, les anges reconnaissent ceux qui ont une âme juive, ou même une partie de l'âme juive. Ils le reconnaissent, ils le savent. Ils reconnaissent les âmes juives qui sont sauvées en Yeshua. Ils savent. Ils reconnaissent les âmes juives qui sont rebelles. Ils reconnaissent tout. Ils voient. Par conséquent, et ça c'est important, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a un an, ça fait pas très longtemps, vous voyez, les étincelles, alors qu'elles ne savent même pas, écoutez bien, elles ne savent même pas qu'elles ont une racine juive, parce qu'elles ne l'ont pas encore découvert, eh bien les étincelles font l'objet d'une attention toute particulière de la part des ennemis spirituels de Dieu, au même titre que le peuple juif. Autrement dit, elles sont soumises à des attaques diaboliques, en particulier à l'antisémitisme, sans que ça soit nommé antisémitisme, parce qu'on ne sait pas qu'on a une racine juive. Alors, c'est quelque chose qui est très réel. Je vous assure, je vais vous donner un exemple, c'est foudroyant. Ça veut dire que les étincelles, les vraies étincelles, depuis leur naissance, et même peut-être avant, à la conception, ont des chemins de vie très difficiles. Et comment ça se traduit concrètement? Eh bien, l'antisémitisme, c'est un outil particulier actionné par les ennemis d'Israël, dont l'Éternel parfois se sert. Ah, vous allez me dire quoi? Oui, par moment, l'Éternel se sert de l'antisémitisme. Pourquoi faire? Regardez, actuellement, il s'en sert pour faire rentrer une partie de son peuple. À travers la Shoah aussi, il y a eu, attention, je ne dis pas que la Shoah, ça a été pour ça, mais à travers la Shoah, les Juifs se sont rappelés qu'ils étaient Juifs. Parce que beaucoup ne voulaient plus l'être. Un Juif doit rester Juif. Parce qu'il fait partie d'un peuple qui a une destinée particulière. Alors, au cours de l'histoire, regardez, reprenez l'histoire. les nations, qu'est-ce qu'elles ont fait, surtout en Europe? Eh bien, elles ont voulu assimiler les Juifs. Et les Juifs ont voulu être assimilés pour être comme les autres nations. Les chrétiens avaient décidé que de toute manière, Israël était rejeté de Dieu, remplacé par l'Église, donc il n'y avait plus lieu d'être. L'Inquisition est venue mettre un choix, par exemple. Eh bien, soit vous vous convertissez au catholicisme, soit vous êtes brûlé vif, soit vous partez. Ben, heureusement, beaucoup sont partis, ils ont voyagé à travers l'Europe, mais ils sont restés juifs. Et je dis, c'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur. Parce que si ce peuple avait disparu dans les oubliettes chrétiennes, jamais le Mashiach ne reviendrait au milieu de son peuple. M'excuse de dire les choses comme ça, mais c'est la vérité. Il y a un temps pour tout. Et même pour qu'Israël, il y a un temps pour qu'Israël, que Jacob reconnaisse Mashiach. Il y a un temps pour ça. Et tous ceux qui ont essayé de convertir les Juifs avant l'heure se sont cassés les dents. Ils se sont cassés les dents. Alors Dieu se sert des moments d'antisémitisme dans le monde pour que les Juifs restent Juifs. Satan et son associé Amalek ont un objectif que j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire empêcher que Jacob ne devienne Israël. Autrement dit, empêcher que ce peuple entre dans sa destinée. Alors, et je vais vous donner une explication simple, mais simple. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Daniel Potier, c'est un homme très, très intelligent, très intéressant, très ouvert, que j'aime beaucoup. Un jour, lors d'une prédication, il a expliqué que chaque être humain reçoit à sa naissance une personnalité et que Dieu ne souhaite pas changer la personnalité de quelqu'un. C'est sa personnalité, il reçoit à sa naissance. Mais chacun est destiné à une mission. Et que pour pouvoir rentrer dans cette mission, il faut avoir le caractère pour. Donc il faut faire la distinction entre la personnalité et le caractère. Et le caractère, c'est quoi ? Mais c'est la façon de réagir aux circonstances de la vie. Autrement dit, chaque personnalité est pour un destin, mais on ne pourra atteindre ce destin que si le caractère le permet. Bon, par exemple, il y a des hommes qui ont reçu de Dieu d'être responsables d'église. Et c'était vraiment Dieu qui demandait. Mais ils ont échoué, pourquoi ? Ben parce qu'ils n'avaient pas le caractère pour. Par exemple, ils étaient colériques, ou bien alors ils étaient orgueilleux, etc. Vous voyez ? Et donc, il faut que ce caractère soit formé pour pouvoir entrer dans le destin qui est le nôtre. Pour Israël, c'est la même chose. Et le caractère, c'est donc le pont entre la personnalité et la destinée. Alors maintenant, regardez comment fait l'antisémitisme. L'antisémitisme a pour objectif de détruire le caractère, pour qu'on ne puisse pas rentrer dans la destinée. Je vais vous donner un exemple tout bête. Malheureusement, c'est un exemple très commun, surtout en Israël. C'est surtout contre les descendants de Jacob, etc. Mais dramatique, dramatique. Par exemple, les antisémites s'attaquent à un juif. Il viole sa femme devant lui, et puis après il la tue devant lui. Quel est l'objectif ? faut toujours chercher l'objectif. Vous allez me dire, il n'y a pas d'objectif, c'est de la méchanceté pure. Non. L'objectif, c'est de détruire son caractère. Autrement dit, l'objectif, c'est de le détruire moralement, de manière à ce qu'il arrête son chemin et qu'il ne veuille plus rentrer dans la destinée juive. Et si lui qui vient de subir cette horreur, si lui se rapproche de sa communauté, si lui se rapproche de la Torah, de la parole de Dieu, alors il va trouver la force. Et c'est comme ça qu'ils font, c'est la communauté juive. Il va trouver la force de surmonter. Et à ce moment-là, il a gagné la bataille. Et quand vous regardez, Raïm, il nous dit, mais en Israël, il n'y a jamais de désespoir. Jamais. Un jour, il a dit, il y a une famille, la voiture, elle a explosé sur une bombe. Donc la maman, les enfants, tout le monde tué, il ne restait plus que le papa. Quelques années après, il s'est remarié, il a refondé une famille. Il a passé au-dessus. Et en refondant une famille, il prolonge la destinée d'Israël. Donc, vous voyez, l'antisémitisme a pour but de casser. De casser pour empêcher que Jacob ne devienne Israël. Il y a beaucoup de situations comme ça, mais je vous assure, regardez comment ils font. Et vous comprendrez ce qui se passe en dessous. Alors, quelle est la mission des étincelles ? Donc, une étincelle, c'est une âme juive qui n'est pas reconnue comme telle par les humains, mais elle l'est reconnue par les esprits. Et les esprits antisémites vont tout faire pour que la personne ne sache rien de ce qu'elle est véritablement, d'une part, mais comme cette personne aime le peuple juif, eh bien les esprits vont la traquer et s'ils peuvent le faire, lui empoisonner la vie. Et voyez, ici, il y a une sorte de dilemme. Parce qu'il est écrit dans Nombre 24:9, « Béni soit quiconque te bénira, maudit soit quiconque te maudira. » Donc, cette personne qui est une étincelle se met à aimer Israël, elle est bénie. Et en même temps, comme les esprits ont vu que c'était une étincelle, elle est attaquée. Allez faire donc le travail d'analyse de ce qui se passe. Vous voyez ? Une personne qui aime le peuple juif est à la fois bénie et en même temps poursuivie par Amalek. Et on observe dans le monde chrétien actuellement, ça fait des années que j'observe ça, de nombreuses étincelles. Il y a aussi des fausses, hein, mais j'en parlerai après. Et si le Seigneur allume une étincelle, c'est dans un but double. Premièrement, d'une part, pour donner aux autres chrétiens des éclairages nouveaux sur les Écritures, et d'autre part, donner le feu pour pouvoir s'approcher de la racine de l'olivier. C'est ça l'objectif des étincelles. Et nous sommes dans le temps de la préparation finale de l'épouse de Yeshua. Il faut donc que les deux branches, la branche juive avec toutes ses ramifications orthodoxes, tout ce que vous voulez, et la branche chrétienne, on va dire, des nations, il faut bien que ces deux branches, un jour, arrivent à s'aimer. Vous savez, quand... moi, je suis un curieux. Et j'aime bien sauter de ma branche sur la branche d'à côté. Et c'est comme ça que je vais voir, ben, je me dis, mais chez eux, mais ils ont une façon d'aimer Dieu. Une façon d'aimer Dieu, je vous garantis. Peut-être qu'ils n'ont pas rencontré encore Yeshua. Et alors, mais ils aiment Dieu. Et je vous assure qu'ils ont quelquefois des vies bien plus exemplaires que les chrétiens. et qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et moi, ça me fait plaisir d'aller promener sur leurs branches. Mais oui, je vous assure. Alors, à quoi est-ce qu'on reconnaît une étincelle? Et je crois que les étincelles ont un rôle important justement à la fin des temps. Parce que c'est un réveil qui se fait en douceur et dont les églises n'ont même pas conscience. Heureusement d'ailleurs. Elles seraient capables de jeter un seau d'eau dessus. Donc, laissons les étincelles briller. Alors, à quoi on va reconnaître une étincelle? Ben, d'abord, c'est que rien, absolument rien, ne pourra l'arrêter dans sa mission. Rien. Mais aussi parce qu'elle possède les caractéristiques du peuple juif. Je rappelle que, d'une part, la descendance de Jacob aime étudier la Torah. La descendance de Jacob, tout au moins ceux qui sont croyants, je parle, aime étudier la Torah, plonger dedans. Et bien, de même, l'étincelle, elle a besoin de nourriture solide. Elle a besoin de ça. Et la tradition juive rapporte une histoire que j'aime bien, c'est rigolo. Ils disent, quand Rebecca enceinte se promenait et passait devant un lieu idolâtre, Ésaü lui donnait des coups de pied pour sortir, pour aller dans ce lieu païen. Et quand elle passait devant une maison d'études, c'est Jacob qui se manifestait alors pour aller étudier. Et Jacob, il étudie tout le temps. Prenez les enfants d'Israël, regardez les yeshivas, mais regardez-les étudier, c'est incroyable. Ah, si les écoles du dimanche pouvaient être comme ça. Oh là 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 là. Alors, ça veut dire quoi concrètement? C'est très pratique ce que je vous dis aujourd'hui. Eh bien, c'est que l'étincelle, elle ne va pas pouvoir tenir longtemps dans une église où l'enseignement est trop léger. Elle va demander plus. Par ailleurs, elle va vouloir revenir à une forme de Shabbat, à la pratique des fêtes de l'Éternel, à des traditions d'Israël. Et on va lui dire, tu judaïses, tu judaïses. On vous a pas dit ça, vous? Moi, on m'arrête pas de me dire que je judaïse. Mais moi, je leur réponds d'autres choses. Véronique, elle répond, on se dépaganise. Voilà. Ben,
17 siècles.
On retourne. Voilà. Donc, ça, mais moi, je leur dis autre chose. Hein, parce que finalement, la loi, ça commence par tu aimeras ton Dieu, premièrement, et deuxièmement, ton prochain comme toi-même. Ben, je dis dans les églises, si vous faites ça, vous judaïsez. Hein. Mais enfin, ils ne font pas souvent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les étincelles? Ben, ils vont essayer de rétablir des relations avec des juifs. Ils vont aller mettre leur nez à la synagogue, ils vont faire des choses comme ça. Qui va pas plaire au pasteur, mais bon, c'est comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a envie, l'étincelle, de se rapprocher de sa racine. Et tout cela va avoir des conséquences concrètes, pratiques, c'est de mettre à mal les autorités de l'Église, la plupart. Les étincelles, vous voyez, ne se sentent pas vraiment chez elles dans les Églises, parce que celles-ci ne sont pas vraiment, pas beaucoup en tout cas, attachées à l'olivier franc, d'une part. Alors que les âmes juives, qu'est-ce qu'elles font, les âmes juives? Ben, elles quittent l'Église. Elles cherchent ailleurs. Elles cherchent ailleurs. Et puis, on retrouve dans l'étincelle, on retrouve une caractéristique du peuple juif qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'ils sont solitaires. Ils sont seuls. Il n'y a pas longtemps, on a rencontré des gens, un couple, un vieux, un des couples âgés, hein, bah, ils sont seuls dans leur région. Heureusement, je vous assure, heureusement, il y a Internet, hein, pour pouvoir se brancher et puis avoir des enseignements, etc. Mais ils sont seuls. Et ils sont à la fois, ils sont la plupart du temps, mais c'est bien ça l'image, hein. Pan, c'est parti du feu. Elle s'est décrochée du feu un jour par l'histoire. Elle brille toute seule. Elle fait son parcours. Elle fait son parcours. Et donc, elle brille seule parce que l'Église, dans son ensemble, ne la reçoit plus et que le peuple juif ne la reçoit pas encore. Elle est entre les deux. Mais Dieu travaille les cœurs des deux parties, et autrement dit, elles sont au milieu, et elles sont là pour faire des ponts, vous voyez ? Elles sont là pour faire des ponts. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a demandé, tu dois faire des ponts, par trois personnes différentes. Un jour, c'était Anne Griffith qui était venue dans une église. Anne Griffith, c'est une prophétesse, et puis je l'avais jamais vue de ma vie. Elle ne m'avait jamais vu non plus, d'ailleurs. Je rentre dans l'église, elle était là, elle me dit, « Toi, c'est Israël. Tu vas faire des ponts, » elle me dit. « Ah bon ?» Et puis, le temps passe. Vous savez que je fais une initiation au cours d'Hébreu, et là, il y était quelqu'un qui venait, puis qui connaissait déjà pas mal de choses, donc il est venu manger à la maison. Il a parlé pendant 4 heures, même. Et puis, tout d'un coup, il m'a dit, « Toi, tu vas faire des ponts. » Deux fois. Une troisième fois, on était en Belgique avec un groupe messianique, et il y avait un rabbin messianique qui était là, et on a mangé ensemble, puis il me dit, « Toi, tu vas faire des ponts. » 3 fois. Ben, je dis, « Oui. » Et donc, c'est mon travail. Alors, comme je sais que je dois faire des ponts, ben, je dis, « Seigneur, fais-le. » Fais-le. Parce que moi, je ne sais pas faire des ponts. Et c'est comme ça qu'il nous fait rencontrer les gens qu'il faut rencontrer. C'est lui qui fait les rendez-vous, c'est lui qui nous fait rencontrer des gens qui vont nous faire avancer, qui vont... Voilà, c'est formidable. On se repose. Donc, les étincelles sont là pour faire des ponts. Alors, il faut que je vous parle de l'antisémitisme et des étincelles. On a évoqué tout à l'heure que les ennemis de Dieu veulent empêcher les descendants de Jacob d'entrer dans leur destinée. Donc, c'est pareil pour les étincelles. Les étincelles vont subir des attaques qu'on ne peut pas qualifier d'antisémites parce qu'on ne sait pas exactement leur origine juive. Mais les esprits le savent. Donc moi je vous dis, c'est antisémite. Ce sont des esprits antisémites qui sont à l'œuvre. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. Donc quelle forme ça va prendre ? Ben, ça va prendre la forme d'emmerdement, des ennuis, des rejets, des portes fermées, des méchancetés inexplicables, des problèmes de santé, des jalousies, etc. Tout ça mélangé avec des bénédictions parce que Dieu est fidèle et qu'il bénit ceux qui aiment Israël. Mais rien dans tout ça ne vous permet de penser que c'est de l'antisémitisme. C'est ça la difficulté. C'est ça. Et il faut être très observateur. Nous, on a mis des années et des années. Pour commencer à déceler le jeu de l'ennemi, c'est pas simple de faire la différence entre des attaques contre des chrétiens, j'allais dire standards, et contre des étincelles. C'est pas pareil. Et il faut à la fois Il faut demander à Dieu le discernement, d'une part, et d'autre part, il faut aussi avoir un esprit d'observation, être méthodique, se souvenir de comment les choses arrivent, etc., etc. Et il faut être un observateur. Pour pouvoir faire des regroupements, c'est toujours, vous savez, c'est toujours au fruit qu'on reconnaît un arbre. Toujours, il n'y a pas d'autre chose. Alors, l'ennemi fera tout pour que l'étincelle ne puisse pas s'approcher de la racine, qu'elle ne puisse pas créer des ponts entre les branches de l'olivier, qu'elle ne puisse pas étudier profondément le tanard, et pas non plus transmettre, parce que vous savez que les juifs, un vrai juif, il ne peut pas s'empêcher de transmettre. Une âme juive, elle transmet aux autres. On n'a pas le droit, quand on est juif, d'apprendre pour soi. On apprend pour transmettre. Vous penserez sans doute peut-être que c'est le lot de tous les chrétiens. C'est peut-être vrai. Mais l'étincelle a quelque chose de plus, c'est qu'elle a un moteur puissant. Un moteur puissant pour conduire vers la racine. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pas un petit moteur, hein. C'est quelque chose de puissant. Et les esprits ont compris depuis longtemps à qui ils avaient affaire. C'est pourquoi le traitement que les ennemis spirituels vont coller sur la personne, infliger à la personne, qui va devenir une étincelle un jour dans sa vie, peut-être un traitement qui a commencé très tôt dans sa vie, peut-être même à sa naissance ou avant sa naissance. Et parce que l'esprit le sait, et nous sommes en présence d'un antisémitisme caché qu'il faut briser au nom de Yeshua. Vous voyez ? C'est un antisémitisme qui a pour objectif de détruire le potentiel de la personne, corrompre son caractère pour qu'elle décide d'elle-même de baisser les bras. Alors, un caractère qui est brisé, brisé par les difficultés, une vie empêtrée à colmater les brèches, a beaucoup de mal à voir clair et à entrer dans sa destinée. On essaye de comprendre l'incompréhensible, là, de ce qui nous arrive. Mais l'antisémitisme, en dehors de ce que je vous expliquais pour briser le caractère, ça paraît complètement insensé. C'est de la méchanceté pure. Il faut le vivre pour le comprendre. N'oublions pas non plus que les gens, les descendants de Jacob, ce sont des gens souvent intelligents. Pourquoi ? Eh bien, parce que leur façon d'étudier le tanar est une façon qui rend intelligent. Une façon d'analyser qui est tout à fait différente de celle des chrétiens, parce que les chrétiens n'ont pas l'hébreu, justement. Mais la façon d'étudier en hébreu, c'est une méthode qui vous développe l'intelligence. Ce sont donc des gens brillants, la plupart du temps. Et les étincelles sont souvent des gens brillants. Et vous remarquez que les descendants de Jacob ont eu de nombreux prix Nobel. Et qu'est-ce que ça fait, ça ? Eh bien, ça fait des jaloux. Et moi, je suis allé voir dans le Talmud, et j'ai lu ceci. Faire montre de sa beauté ou d'autres qualités convoitées attire le mauvais œil, à savoir les regards jaloux ainsi que les malheurs qui en découlent. Rabbi Yehuda Leiva ben Bezalel, à Prague, a compris que le mauvais œil est une force destructrice, spirituelle plutôt que physique, créée par l'attention jalouse que l'on fixe sur quelqu'un. Autrement dit, Les étincelles, en général, ce sont des gens brillants. Ça ne veut pas dire qu'ils ont beaucoup de diplômes, mais ils sont intelligents. Il ne faut pas confondre les diplômes et l'intelligence. Il ne faut pas tout mélanger. Ce sont des gens qui sont intelligents et qui vont faire des choses très belles et qui vont provoquer ce que le Talmud appelle le mauvais œil, c'est-à-dire la jalousie. Et la jalousie va provoquer des paroles de malédiction, de tout ce que vous voulez, des paroles pour détruire la personne. Et voilà, paf, ça se rajoute. C'est pas dans le jargon chrétien un mauvais œil, hein. C'est pas dans le jargon chrétien. Mais le regard des jaloux, les paroles des jaloux, ça vous amène des désastres, hein. Alors, d'ailleurs, si ce n'était pas vrai, Paul n'aurait pas dit « bénissez et ne maudissez pas », parce que si la parole ne faisait rien, il n'aurait pas dit ça. Hein. D'accord ? Puis dans Jérémie 18, on lit « tuons-le avec la langue ». Tuons-le avec la langue, vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette étincelle, elle vient de loin, parce que elle vient d'une suite de pères et de mères qui ont des racines juives. Elle vient de loin. Ça veut dire que ça vient de loin, les problèmes. Vous comprenez? Et alors, est-ce qu'on peut appeler ça malédiction générationnelle ou pas? J'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que l'étincelle qui est née de nouveau, et qui sait qu'elle a compris qu'elle était une étincelle, pas une fausse, elle doit briser au nom de Yeshua l'esprit antisémite qui la poursuit. Et c'est pas simple à comprendre ces choses, mais il faut. Moi j'ai compris depuis un an. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais le Seigneur nous a promis qu'il nous conduirait dans toute la vérité. Et que cette vérité nous rendrait libres. Donc il y a des verrous qu'il faut faire sauter. Et parmi ces verrous, je vous dis, il y a l'esprit d'antisémitisme. Et c'est un esprit extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et alors, la question que je me suis posée, est-ce que toutes les étincelles sont soumises à ce traitement? À mon avis, oui, mais à des degrés plus ou moins forts. Tout dépend, et les esprits le savent, tout dépend, si vous voulez, de la dangerosité que représentent ces étincelles par rapport au royaume de Satan. Mais évidemment. Il existe des fausses étincelles. Les fausses étincelles, c'est quoi? Eh bien, il y a des gens qui ont besoin, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la mode aussi, de dire qu'ils aiment Israël. Et alors, ils vont devenir plus juifs que les juifs. Ça m'énerve. Vous savez pourquoi ça m'énerve? Parce que ça dégoûte tout le monde. Ça dégoûte tout le monde parce que c'est des faux. Et qu'est-ce qu'ils font au fond? Ben, ils attirent l'attention sur eux. C'est au fruit qu'on reconnaît un arbre. Sur qui est-ce qu'ils attirent l'attention? Est-ce que c'est sur eux pour se montrer plus juifs que les juifs? Tralala, tralala. Nous on fait ceci, nous on fait cela. Et puis alors ils deviennent légalistes, tout ce que vous voulez. Est-ce que... Enfin, c'est quelque chose qui va énerver les pasteurs au plus haut point et qui vont dire, je ne veux plus de ça dans mon église. Terminé. Et les vraies étincelles, elles ne peuvent plus avancer. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien, la différence, c'est que quand le vent va tourner très fort à mal, Je ne sais pas si ces personnes-là vont continuer à jouer à ce petit jeu. Parce que quand les temps seront très durs, elles vont certainement tourner kazakh et devenir des traîtres. Méfiez-vous, faites attention aux fausses étincelles. Elles attirent les regards sur elles et non pas sur Yeshua ou pour faire aimer Israël. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de faire un pont pour pouvoir aimer l'autre partie, c'est-à-dire Israël et Yeshua. C'est ça l'objectif, c'est pas de s'attirer la gloire sur soi. À quoi ça sert? Vous voyez? Alors, un jour, peut-être, elles se prendront le pied dans le tapis. Mais faites attention avec qui vous avez des relations. Moi, je vous dis, le Seigneur nous a supprimé beaucoup de relations. Il a supprimé beaucoup de relations parce que ce sont des relations qui nous amèneraient des ennuis. Donc, il faut faire très attention avec qui vous êtes en relation. Alors, que chacun s'éprouve soi-même, hein. Un jour, on devra rendre compte de ce qu'on a vécu sur Terre. Hein. Bon, nous savons bien sûr que la parole nous dit, dans Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus d'esclaves ni libres, ni hommes ni femmes. Vous êtes en un en Yeshua. Bah ouais, moi j'aimerais bien être un en Yeshua et tous les juifs. Ceci étant dit, il n'y a plus ni juif ni grec, c'est au regard du salut. Ben heureusement que ma femme est restée une femme, hein, moi je vous le dis. Hein. Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, il faut bien comprendre les textes. Hein. Alors, je voudrais vous dire pourquoi. Alors, je lis encore un petit passage de Madame Yoeved Rigler. Elle dit « Les Juifs ne doivent pas se laisser intimider par le venin, la haine, la calomnie de leurs ennemis. Jamais le Juif n'a été populaire. Toujours, il a été fidèle à son engagement envers Dieu. » Et il y a un proverbe allemand qui dit « Qui a peur des étincelles ne devient pas forgeron. » Tant pis pour les églises qui ne voient pas ce réveil, parce que c'est un vrai réveil que le Seigneur a suscité et qui va permettre de préparer l'épouse. Et l'église ne voit même pas. Vous vous rendez compte? Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai écrit cette étude. Parce que Véronique et moi, on a eu pas mal d'emmerdements, on va dire. De toutes sortes, Véronique, parce que aussi elle avait un esprit de mort sur elle, etc. Et moi, j'ai une vieille racine d'Israël, et le malin, il s'est occupé de nous. Hein. Bien. Et à un moment donné, on a dû partir, quitter environ une dizaine d'églises. On tenait plus, enfin. Ou alors on s'est fait vertement virer. Hein? Donc, vous voyez, on a eu un chemin comme ça. Et je parlais avec un vieil ami à nous, chrétien, et je lui disais, tu sais, j'ai l'impression que, du fait que je parle tout le temps d'Israël, j'ai l'impression que c'est une forme d'antisémitisme, ce qu'on vit. C'est un vieil ami, et il réfléchit beaucoup, et il me dit, mais moi, je viens de savoir, par révélation, que j'ai une racine juive qui me dit, tiens, ben oui, c'est un Polonais, bon, voilà. Et alors je vais vous raconter un petit peu ce qui lui est arrivé. Il y a 25 ans, sa femme, qui surtout les deux chrétiens. Sa femme était dans l'église et elle avait lu un livre de Rebecca Brown et ça lui avait tourné la tête. Et alors elle prophétisait des trucs, mais bref, elle a prophétisé des trucs abominables. Qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit une division dans la famille. C'est-à-dire que depuis 25 ans, il ne savait pas où habitait sa femme. Elle avait réussi à persuader plusieurs de ses enfants de se séparer de leur père. Donc il ne savait pas où ses enfants habitaient. Il ne savait pas s'ils étaient mariés. Il ne savait pas s'il y avait des petits-enfants. Rien. Il n'en restait plus qu'un qui était resté, on va dire, avec lui. Il ne savait rien. 25 ans. Il n'y a pas divorcé, séparé. 25 ans, vous entendez ? L'année dernière, on va le voir, et on lui dit, je lui raconte donc notre histoire, il nous dit, c'est quand même pas normal que vous soyez viré comme ça, d'un peu partout. Il dit, et je lui dis, moi j'ai une racine juive, le Seigneur m'a répondu. Oh, il dit, on va prier pour l'esprit d'antisémitisme. Donc il a prié pour nous, et puis on a prié pour lui, on a prié chacun l'un pour l'autre, etc. On a coupé l'esprit d'antisémitisme au nom de Yeshua. Écoutez bien, dans la semaine qui a suivi, sa femme a écrit à ses enfants qui étaient on ne sait pas où, en leur disant « vous pouvez revoir votre père ». Ça, c'était il y a un an de ça. Et ici, dernièrement, elle l'a appelé et elle a fondu en larmes en lui demandant pardon. Vous vous rendez compte ? L'esprit d'antisémitisme. Parce que lui, il a une racine juive, il a été attaqué comme ça. C'est puissant, vous savez, l'esprit antisémite divise. Divise énormément. Il veut fracasser les gens de telle sorte qu'ils ne puissent pas rentrer dans leur destinée. Et bien maintenant, les choses sont en train de se réparer. Je ne dis pas que tout est réglé, ce n'est pas vrai, mais le nœud du problème, il est fait. Vous voyez ? Alors que le Seigneur vous bénisse.